Le faisan doré de Philibert Audebrand. Chapitre 1er. Cela se passait quelque temps après la révolution de juillet en 1835. Sur la fin du mois de septembre, dans la matinée, un homme déjà âgé, mais encore vert, parcourait à pied le pont Neuf. Au moment où il arrivait au bout de la voie, en face de la rue Dauphine, il tournait à sa gauche et se dirigeait sur le quai des Grands Augustins, du côté de cet édifice divisé en trois nefs, qui était connu sous le nom de marché à la volaille et au gibier. 7 heures venaient de sonner. Au commencement de l'automne, le ciel de Paris est ordinairement d'un ton grisâtre et les abords de la Seine sont enveloppés d'un épais brouillard. Néanmoins, ce piéton matinal et solitaire ne s'était point pourvu d'un manteau ni d'aucun de ces par-dessus protecteurs que la mode moderne a imaginés. Chose assez bizarre, il était presque en costume de salon. Quelques coups de crayon le feront mieux connaître. Notre promeneur avait une grosse taille, un dos rond. Sa tenue participait de celle de l'homme de cour et de celle de l'officier supérieur. Aux franges de son linge très fin et très blanc se voyaient des bordures de dentelle. Autour du cou, il portait une cravate de satin. Tout le reste de son costume était en casimir noir. Sur les traits de son visage, un observateur aurait pu lire que le personnage n'était pas une nature vulgaire. De petits yeux noirs éclairaient la figure d'une lueur très vive. Il y avait aussi sur les lèvres, un peu rouge, et par conséquent sensuel, un sourire empreint d'une pointe d'esprit assez acérée. Cependant, un disciple de Lavater, quelque consommé qu'il eût été dans la science de la physionomie, aurait difficilement débrouillé le sens de cette énigme ambulante. Que pouvait être un pareil homme qui se promenait en automne, seul, dans un quartier nullement aristocratique, à une heure où les gens comme il faut sont encore au lit? Si c'eût été un magistrat ferré, un juge d'instruction, un avocat en renom ou même un greffier haut gradé, il aurait coupé le pont Neuf par la moitié et serait entré au palais de justice en longeant la petite place de Sceaux. Si c'eût été un professeur célèbre se rendant à l'école de médecine ou à l'école de droit, il aurait d'abord pris une voiture pour économiser ses forces et le temps de ses élèves, et en second lieu, il n'aurait pas manqué de prendre par la rue Dauphine, c'est-à-dire par la ligne droite. Par une de ces conjectures, ne pouvant s'ajuster au caractère ni à l'allure de ce piéton, les passants se bornaient à penser que c'était un original, ce que nos voisins d'outre-mer appellent un excentrique. Ils ne se trompaient pas. L'homme n'était pas plutôt entré dans la halle à la volaille que de 20 côtés à la fois les marchands l'appelaient à voix haute. « Bonjour, monsieur le marquis. Monsieur le marquis, venez par ici. Ah, voilà l'excellent marquis. Mesdames, c'est une bonne journée pour nous. » On a sans doute déjà deviné que celui que les dames de la halle interpellaient si familièrement ne pouvait être qu'une célébrité gastronomique. C'était en effet monsieur le marquis de Cussy, ancien premier officier de bouche de Napoléon et l'un des gourmands les plus illustres du XIXe siècle. Par goût d'abord, par devoir ensuite, un peu plus tard par habitude et à la fin pour son plaisir, le marquis se levait au petit jour comme les maîtres d'hôtel de grandes maisons aimaient à faire son marché lui-même. Homme d'esprit, sceptique comme le sont d'ordinaire les sybarites, il disait qu'il avait assisté à la Révolution comme à un repas un peu agité, mais où il n'avait pas perdu un coup de dent. Toutefois, il était homme de cœur quand l'occasion le demandait. Après le 20 mars, il reprenait son service aux Tuileries, car il avait refusé les offres séduisantes de ses anciens amis rentrés avec les Bourbons. Quand la nouvelle du désastre de Waterloo lui parvint, il s'écria sur le ton d'une amère tristesse « Allons, voilà ma marmite encore une fois renversée. » Cependant, l'année suivante, un de ses amis, c'était le maréchal de Lauriston, lui faisait donner une sinécure de 1000 écus. « C'est assez, disait-il, c'est un morceau de pain et un morceau de fromage de brie. » Il n'était pas de ceux de sa caste qui criaient sans cesse contre la Révolution et ses conséquences. Sous Charles X, lorsque fut promulguée la loi relative à l'indemnité accordée aux émigrés, il refusa obstinément d'en revendiquer sa part. « Ne parlons point du passé, disait-il. » En général, il n'aimait pas à s'occuper de matières sérieuses. Bien vivre était à ses yeux toute la philosophie qu'un homme censé dû mettre en pratique. Y en a-t-il une meilleure? « Dans les temps modernes, disait-il, il n'a été prononcé qu'un mot sensé, et il est tombé de la bouche d'un gourmand. C'est la belle parole d'Henrion de Pensée. « Messieurs, je ne croirai au progrès que quand je verrai un cuisinier à l'Institut. » Le marquis de Cussy déjeunait à midi et dînait à 6 heures. Sa petite table était ouverte toute l'année. Comme il était très expert en tout ce qui touchait l'art de bien vivre, les premières maisons de France et d'Angleterre le chargeaient de dégustations importantes. À Paris, on le priait sans cesse de juger, et son jugement faisait loi parmi les marchands, surtout au hall, où, comme je l'ai dit, il se rendait de très grand matin, seul et à pied. Au milieu de ses amis, en mangeant, il avait toujours un tour de conversation fin et original. On sait qu'il se complaisait surtout à combattre presque tous les principes émis dans la physiologie du goût. Ainsi, Brillat Savarin voulait 12 personnes à table. Le marquis de Cussy répliquait « Ce n'est pas le nombre ». L'école de Salerne, qui était si sage, disait « Jamais moins que les 3 grâces, jamais plus que les 9 muses. Pour moi, je dis « Soyez 3, soyez 6 ou soyez 9 ». Il voulait qu'on ne bût qu'à petits coups. Il répétait « Il faut savoir ne pas manger quand on n'a pas faim, c'est la règle ». Brillat Savarin demande 2 douzaines d'huîtres et veut qu'elles soient ouvertes et placées d'avance sur la table. Le marquis se récrie « Professeur, des huîtres ouvertes d'avance, et peut-être même détachées, mais c'est la honte de la barbarie, et pour que je vous excuse, il faut que je me rappelle que vous êtes né dans le département de l'Ain. » De même, l'auteur de la physiologie du goût voulait des glaces dans une salle à manger. Monsieur de Cussy s'y opposait. « On n'a pas besoin de se voir manger. » Maintenant que j'ai donné quelques idées de l'homme, je vais reprendre le fil de mon récit. En allant à la halle à la volaille le matin en question, monsieur le marquis de Cussy manifestait l'empressement d'un homme qui a une emplette importante à faire. Les dames de l'endroit ne manquaient jamais de saluer son apparition par un petit caquetage flatteur. Après une inclinaison de tête adressée à l'une, un sourire à l'autre, un mot amical à une troisième, un salut de la main à toutes, le gastronome s'était dirigé vers celle des nefs qui est plus spécialement consacrée à la vente du gibier. « Que voulez-vous ce matin, monsieur le marquis ?» lui avait demandé une voix. « Est-ce un perdreau ? Est-ce une paire de cailles ?»« Pas tout à fait, il me faut mieux que cela. »« C'est donc un chapelet de bécassines ?»« Non, mon enfant, j'ai besoin d'un faisan doré, mais d'un excellent faisan. » Au même instant, de place en place, on se transmettait ces paroles comme on l'aurait fait pour une dépêche télégraphique. « Et vous autres, le meilleur faisan de la halle pour monsieur de Cussy !» 2 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un superbe oiseau aux plumes chatoyantes arrivait d'éventaire en éventaire jusqu'au pilier où stationnait l'ancien officier de bouche. « Voilà bien mon affaire, » dit le marquis en jetant un coup d'œil sur la bête. Après avoir enveloppé son butin dans le numéro d'un journal de la veille, il tira de sa bourse une pièce d'or, paya, formula une révérence pleine de bonhomie et sortit. « Allons maintenant où je suis si impatiemment attendu, » murmurait-il. En le voyant partir, les dames de la halle ne pouvaient se défendre de quelques commentaires, comme toujours. « Pour qui donc a-t-il demandé ce faisant ? Est-ce pour l'ambassadeur d'Angleterre ? Est-ce pour le baron de Rothschild ? Vous cherchez beaucoup ?» répliquait une commère. Quoiqu'il ne soit plus précisément un homme riche, le marquis est toujours et de plus en plus une fine bouche. Le faisan doré ne peut pas être pour un autre que lui-même. Toutes ces bonnes langues se trompaient dans leurs conjectures. Chapitre 2e. En suivant des yeux le doyen des gourmands, on aura pu le voir reprendre la ligne du Pont-Neuf et s'enfoncer peu à peu, toujours à pied, du côté de la rue Montorgueil, jusque par-delà le faubourg Poissonnière. À force de marcher, il entrait dans une de ces petites rues silencieuses et à demi désertes du faubourg Saint-Denis, qui sont le quartier privilégié de ce que, dans le commerce, on nomme l'article de Paris. C'était déjà par là que résidaient alors ceux des ouvriers intelligents, dont la fonction tient le milieu entre la main-d'œuvre machinale et l'art. À cette époque-là, comme au jour où nous sommes, il y avait dans ce pâté de maisons des ciseleurs, des lithographes, des luthiers, des décorateurs, toute une série de ruches où bourdonnaient 1000 abeilles industrieuses. Rue Martel, au numéro 17, le marquis entrait en demandant M. Simon Leblanc, peintre sur porcelaine. « Au 4e, avait dit le concierge. « je sais, murmurait le vieillard. 8 jours auparavant, en effet, il avait gravi les degrés de l'escalier, et voici pour quel motif. Un petit prince des bords du Rhin était en correspondance régulière avec lui à propos des détails de sa table. dans une lettre de fraîche date, il le priait de vouloir bien se mettre en campagne pour lui. L'altesse possédait un très beau service en porcelaine peinte. Or, en desservant un dîner de gala, un balai maladroit avait cassé deux soucoupes. Le service se trouvait dès lors dépareillé et ne pouvait plus être bon à rien si l'on ne remplaçait ces deux pièces. Par sa missive, le prince recommandait à M. de Cussy de n'épargner ni soin, ni temps, ni recherche, ni sacrifice d'argent pour arriver à refaire les deux soucoupes. Aussi, le jour même où il avait reçu la lettre, le gastronome se mettait-il en quête des peintres sur porcelaine les plus habiles, mais les meilleurs praticiens étaient occupés. À la manufacture de Sèvres, les commandes de la couronne ne permettaient pas la plus légère distraction. Dans les ateliers particuliers, on était sur les dents. Il ne restait de disponible qu'un seul travailleur en état de bien faire ce qu'on souhaitait, c'était l'ouvrier, ou si vous voulez, l'artiste de la rue Martel. « Eh bien, j'irai rue Martel, chez M. Simon Leblanc », avait dit le rival de Brillat-Savarin. Une semaine donc avant la visite à la halle, il sonnait à la porte du peintre sur porcelaine. Une jeune femme était venue ouvrir. Était-ce bien une jeune femme ? Celle-là appartenait, suivant toute apparence, à cette catégorie des femmes de Paris qui n'ont pas d'âge. Son visage était correct, ses yeux encore doux, quoique légèrement flétris, des fils blancs, survenus prématurément sans doute, argentaient des cheveux blonds qui avaient dû être fort beaux. C'était la femme de l'ouvrier. En vieil observateur qu'il était, le marquis avait déjà compris que la souffrance et la misère avaient passé sur ces douces figures et y avaient laissé leur ineffaçable empreinte. En très peu de mots, avec le plus de douceur qu'il lui avait été possible d'en trouver, le vieillard exposait le but de sa visite. « Il s'agit, ajoutait-il, d'une tâche qui sera libéralement rétribuée. Pensez-vous que votre mari veuille s'en charger ?» Elle paraissait hésiter à répondre. « Deux soucoupes, grand prince, poursuivit-il, c'est une poignée d'or. » Elle baissait la tête comme si elle eût voulu dissimuler son embarras. On m'indiquait M. Simon Leblanc comme un habile travailleur. Cette fois, elle se décida à prendre la parole. « Habile, oui, monsieur, il l'est certainement. Mais par malheur, il n'aime pas le travail. » À cette réponse, le marquis promenait un regard scrutateur dans la pièce où il se trouvait, et il avait l'air de s'arrêter au spectacle de la misère qu'il apercevait. « Non, il n'aime plus le travail, » reprenait la jeune femme. « Cela vous étonne sans doute, puisque nous sommes fort pauvres, mais que voulez-vous, c'est ainsi. » Tandis qu'elle disait cela, une larme tremblait comme une perle à ses longs cils. « Pauvre enfant, » murmurait le marquis. « Monsieur, » ajoutait-elle, « vous me faites l'effet d'un bon cœur. C'est ce qui m'encourage à tout vous confier. Parlez, madame, parlez, je vous écoute. » « Mon mari n'a pas toujours été un fainéant. Dans les premiers temps de notre ménage, il était le meilleur ouvrier qu'on pût citer. Ce que je vais vous dire vous paraîtra sans doute bien difficile à croire. On le choyait trop, on le payait trop grassement, c'est ce qu'il a perdu. » « Je n'y conçois rien, en effet. » « Vous allez mieux comprendre, monsieur. » Elle s'essuya les yeux et ajouta. « Le moindre travail était une bonne aubaine. Pour une journée d'application, 50 francs. Pour une nuit, le double. » Tout autre eût trouvé là-dedans de quoi se faire un beau sort. Simon, gagnant l'argent facilement, se mit tout à coup à le dépenser plus facilement encore. Ne pouviez-vous donc pas vous y opposer ? Ah, monsieur, vous ne savez pas combien est peu de choses l'autorité d'une femme dans un ménage d'ouvriers. Plus je mettais à le sermonner, plus il s'éloignait de la maison. Bientôt, il ne voulut plus consentir à travailler que 2 jours sur 7, prétendant que cela suffisait à tous nos besoins. Et par suite, l'habitude du cabaret étant arrivée, le goût du travail a tout à fait disparu. Le marquis était tout d'un coup devenu rêveur. « Comment, pensait-il, moi qui n'aime pas les choses sérieuses, je rencontre un mélodrame sur mon chemin ?» Comme les larmes gagnaient de nouveau la jeune femme, elle s'arrêta à cet endroit de son récit. « Mais, lui demanda le marquis, n'avez-vous donc conservé aucun droit sur votre mari ? « Ne pouvez-vous donc pas le faire revenir à la raison quand vous êtes à table ? C'est le bon moment. »« Il y a beau temps qu'il ne mange plus à la maison, monsieur. »« Il ne mange plus avec vous. C'est grave, en effet. Vous a-t-il jamais dit pourquoi ?»« Il ne trouve plus la cuisine passable. »« Ah, dame, il est dans son droit. »« Mais à qui la faute, monsieur, je vous le demande ?»« Pour faire tourner la broche sans argent. »« Il ne m'en donne plus. Par conséquent, il n'y a rien dans le garde-manger. »« Un peu de douceur le ramènerait, peut-être. » Mon Dieu, j'ai usé toute ma patience. Conseil ou reproche glisse sur son esprit comme la pluie sur la toile cirée. Mais je suis au bout de mon rouleau. Il y a déjà 3 ans que cela dure. C'est beaucoup trop. J'ai pris une résolution dont rien ne me fera départir. Je le quitte la semaine prochaine. Vous le quittez pour tout de bon ?
Pour tout de bon, monsieur.
N'en faites rien, mon enfant.
Mais si, monsieur, je n'y puis plus tenir.
Ici, le vieux marquis se leva de la chaise sur laquelle il était assis. Il alla prendre la main de la malheureuse créature, la serra dans la sienne et dit « Il y a remède à tout et surtout à cela. »
« Je n'en crois rien, monsieur.
Écoutez-moi. Je suis le marquis de Cussy. On m'appelle le premier des gourmands. C'est une flatterie. On devrait me surnommer le premier des médecins. Ce serait une justice. Je guérirais votre mari. »
« Vous, monsieur, comment cela ?»«
À l'aide de ma science. »
« Mais vous entendez bien que j'y mets une condition. »
« Laquelle, monsieur ?»«
C'est que vous me laisserez médicamenter, monsieur Simon Leblanc, comme je l'entendrai. »
« Rien de plus juste. »
La jeune femme ne pleurait plus. Elle était tout yeux et tout oreille.
« Pour commencer, reprit le gastronome, je vais écrire à votre mari un mot que vous lui remettrez quand il rentrera. » Il se mit devant un petit bureau de noyer et jeta quelques lignes sur un bout de papier. « C'est la première de mes ordonnances. N'oubliez pas qu'il faudra la suivre, les yeux fermés. » À son retour, le soir, Simon Leblanc décacheta ce billet qui était ainsi conçu. « On m'a affirmé, monsieur, que vous étiez un des meilleurs peintres sur porcelaine de Paris, et ce que j'ai vu de vous m'a fait comprendre qu'on ne m'avait dit rien de trop. J'ai à vous prier de faire dès aujourd'hui même, si votre temps vous le permet, 2 soucoupes destinées à compléter un service dépareillé. Vous trouverez chez vous les échantillons. Il est inutile de vous apprendre que la rétribution est digne de vous. L'argent n'est pas le seul mobile des artistes de mérite. Nous nous entendrons aisément sur ce point. En attendant, permettez-moi de vous imposer une petite condition. Depuis 50 ans, j'en ai 65, je ne fais jamais une affaire sans me rencontrer à table avec l'autre partie contractante. C'est vous dire que je m'invite à dîner pour demain soir en famille avec vous et votre femme, marquis de Cussy.
Voilà un étrange original, se dit le peintre sur porcelaine. Un marquis qui s'invite à dîner dans une mansarde où il n'y a ni pain ni pâte. Eh bien, ce sans façon me plaît. Nous verrons à nous tirer de là.
Chapitre 3e. Après avoir lu la lettre, Simon Leblanc avait jeté les yeux sur les échantillons du service qu'il s'agissait de compléter. « On ne peut venir à bout de ces 2 soucoupes qu'après 8 jours de travail, » avait-il dit. « 8 jours de travail, la tâche est rude, mais à demain les affaires sérieuses. » Le lendemain, en se levant, les 2 soucoupes étaient encore sa préoccupation. « Diable d'homme avec sa lettre, » s'écria-t-il. S'il n'eût fait que laisser la commande, je ne m'en inquiéterais pas. Mais le moyen de ne point songer à ce que demande un marquis qui s'invite à dîner chez vous ? Chose étrange, durant toute la journée, il allait et venait dans la petite pièce où il se tenait d'ordinaire au temps où il aimait un peu le travail. Il assortissait ses couleurs, préparait ses pinceaux, ses vernis, il commençait ses dessins. La jeune femme, émerveillée, l'examinait sans avoir l'air d'y mettre d'affectation. Dans l'après-midi, vers 2 heures, on frappait à la porte. C'était le marquis de Cussy. Son premier mouvement fut de tendre la main à Simon Leblanc. « Ma foi, disait-il, j'accours tant j'avais hâte de venir faire votre connaissance. » Et voyant le peintre à l'ouvrage, « Recevez mon compliment bien sincère, c'est un bon signe. Vous en serez immédiatement récompensé. Savez-vous comment ? Il va vous venir un excellent appétit car enfin nous allons dîner ensemble et bien dîner. »
« Bien dîné, monsieur le marquis, je ne demande pas mieux, » répondit l'ouvrier. « Mais entre nous, vous avez choisi une mauvaise auberge. Chez nous, gens pauvres, il n'y a pas d'office. Je vous mènerai au cabaret. »«
Du tout, du tout. Les cabarets, il n'y en a que 2 ou 3 de passables dans Paris, et ils sont trop éloignés d'ici. C'est chez vous-même que nous dînerons. »«
Mais, monsieur le marquis, » objecta la jeune femme d'un air embarrassé,
« ne vous inquiétez de rien, mon enfant, je me charge de tous les détails. Avez-vous du charbon ?»
« Cela ne manque jamais, même chez les pauvres gens, monsieur le marquis.
Le reste me regarde. »
Il n'avait pas fini de parler qu'un valet galonné, tout essoufflé, apportait un grand et lourd panier plein de provisions et de bouteilles coiffées de goudron.
« Quel drôle d'homme !» disait Simon Leblanc.
« Eh bien, je ne sais pourquoi, mais je crois qu'il me ferait croire tout ce qu'il voudrait. »
De son côté, la jeune femme murmurait. « c'est un envoyé de la Providence.
Il faut que je vous mette au courant de mes allures, mes enfants, reprit le gastronome. Non seulement je suis bon mangeur, mais j'ai aussi le mérite d'être un excellent cuisinier. Et disant cela, il ôtait son habit et retroussait ses manches.
Tenez, monsieur Leblanc, restez à votre travail, laissez-moi au mien. Quand j'aurai fini, je vous préviendrai.
Il entrait alors dans la cuisine et se préparait à remplir les fourneaux.
Monsieur le marquis, lui dit la jeune femme, je ne souffrirai jamais
que je fasse du feu moi-même. Eh mon Dieu, si! La quantité de charbon n'est pas une chose indifférente. Il n'y a que moi qui sache ce qu'il en faut. D'ailleurs, ajouta-t-il à voix basse, vous savez nos conventions. Je suis médecin. Vous me laisserez guérir mon malade comme je l'entendrai.
C'est juste.
À la nuit tombante, le couvert était mis dans la modeste salle à manger de l'ouvrier. Grâce au concours de la jeune femme, tout était propre et engageant. Le vénérable gourmand, qui avait tout prévu, n'oubliait pas la nappe blanche sur la petite table ronde. Chacun des trois convives voyait devant soi de la porcelaine de Sèvres et des verres de cristal. Que dire du menu ? Il y a des choses qui ne se décrivent pas.
« Figurez-vous, mes enfants, qu'on ne dîne pas mieux ce soir chez le roi, » disait le marquis.
« C'est bien ce que je pense, » répondit l'ouvrier. « Comment vous y prenez-vous pour faire des fricots si merveilleux ?» Le gastronome ne put réprimer un sourire de satisfaction. « Vous trouvez donc ma cuisine passable ?
Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon.
Eh bien, nous y reviendrons demain. »
Par discrétion, le peintre voulait se récrier.
« Ce que j'en fais, c'est pour moi, » lui répondit le vieillard. « Je suis pressé d'avoir mes soucoupes, et je ne suis pas fâché d'être près de vous pour que vous ne perdiez pas un instant. » On recommença ainsi 4 jours de suite. Après le travail, venait l'excellent dîner, c'était de règle. À la fin du 4e jour, Simon Leblanc avait retrouvé, comme par enchantement, un peu de goût pour son métier. Il lui semblait que son atelier était moins haïssable. Ses outils, longtemps délaissés, lui plaisaient, et il murmurait tout en peignant « Ah, si l'on était sûr de toujours bien dîner chez soi !» À l'heure où le marquis allait se retirer, la jeune femme, le prenant à part, lui disait « Je crois bien que Simon commence à désapprendre le chemin du cabaret. Il l'oubliera tout à fait dans 2 jours d'ici. Je vous en réponds, mon enfant. » L'excellent homme faisait allusion à une expérience qu'il projetait. Il s'agissait d'acheter lui-même à la halle un faisan doré et de le préparer. C'était ce qu'il venait de faire dans la matinée du jour dont nous avons parlé. En entrant, il trouvait la petite maison tout en fête. « C'est aujourd'hui que je vous livre les 2 soucoupes, monsieur le marquis, » lui dit Simon Leblanc. « C'est aujourd'hui que nous faisons notre meilleur dîner. » Des deux côtés, on se tenait parole. Sur les 5 heures, le peintre sur porcelaine accourait en donnant les 2 soucoupes au vieillard. « Voilà votre chef-d'œuvre, mon enfant, » lui dit monsieur de Cussy. « Attendez, je vais vous montrer le mien. » Il lui faisait voir le faisan doré admirablement disposé sur un plat long.
« Il ne résistera pas à ce médicament-là, » disait-il ensuite en se penchant à l'oreille de la jeune femme.
Le gastronome avait bien calculé.
« Je ne veux plus de la vie du cabaret, » s'écriait l'ouvrier au dessert.
« Comment, il est déjà guéri ?» reprit la jeune femme en pleurant de joie.
« À la condition, » reprit l'ancien officier de bouche, que vous saurez continuer le traitement.
Mais tenez, voici pour vous y aider. » Il lui tendait en même temps un billet de 1000 francs.
« C'est le prix des 2 soucoupes, » ajoutait-il.
Simon Leblanc reprit ses habitudes de travail et l'abondance faisait fleurir le pauvre ménage. 2 années s'étaient écoulées depuis cette soirée mémorable. Un certain jour, sur la fin de l'été, le marquis de Cussy, sachant qu'un gastrosophe ne peut jouir librement de la plénitude de ses facultés que quand il entretient sa santé par la marche, se promenait seul, une petite houssine à la main, dans les environs de Saint-Germain-en-Laye. Ce lieu lui plaisait, 1000 points de vue y souriaient à son esprit. « On trouve tout réuni par ici pour le plaisir des yeux », disait ce smindiride moderne. La Seine déroule à travers la campagne ses longs plis de serpents. 20 villages charmants et riches servent de vide-bouteille aux citadins de la grande ville. Il y a aussi une magnifique profusion de beaux arbres. La forêt de Saint-Germain-en-Laye, la forêt de Marly, les bois du Vésinet. Que de villas, que de nids d'amour, comment se montrer morose dans un tel pays ? À 100 pas, il reprenait. Et les pêcheurs à la ligne sont par ici dans leur élément. tandis qu'il énumérait ainsi les diverses beautés du paysage, une voix qui partait d'un massif de Trembles vint frapper son oreille. « Ah, vous voilà, monsieur le marquis. Bonjour, monsieur le marquis. Combien je suis heureux de vous rencontrer, monsieur le marquis. » Monsieur de Cussy leva la tête du côté par où paraissait venir ce salut, et sur le rebord de la route, appuyé sur une claire-voie peinte en vert, il aperçut un homme encore jeune, ayant un chapeau de paille sur la tête et tenant un bouquet de jasmin de Florence à la main. Ce jeune homme s'avança, non sans saluer jusqu'à terre, en signe de respect. « Me reconnaissez-vous, monsieur le marquis ? » reprit-il en tenant toujours son chapeau de paille à la main. « Attendez donc, » répondit le gastronome en se passant la main sur le front. « Et dame, à mon âge, on n'a pas toujours la mémoire bien vive. Cependant, il me semble bien vous reconnaître. » Il paraissait hésiter. « Rappelez-vous un malade que vous avez ramené de beaucoup plus que de la mort, c'est-à-dire du cabaret et de la paresse. » Monsieur de Cussy le regarda fixement. « Ah, vous êtes Simon Leblanc, » lui dit-il. « J'y suis à présent. » Simon Leblanc lui-même en chair et en os, monsieur le marquis, bien portant, grâce à vous, redevenu gai par vos soins, travaillant tous les jours par suite de vos ordonnances, et en voie de devenir propriétaire à cause de vous. » Le vieillard s'était arrêté. « Propriétaire, hein? Que dites-vous là, mon ami ?»« La vérité et rien de plus, monsieur le marquis. »« Mais encore, qu'est-ce que c'est? De quoi êtes-vous propriétaire ?»« Tenez, voyez-vous là-bas, derrière ces trois peupliers d'Italie dont le vent fait un peu incliner la tête, une petite maison à contrevent vert et à toit rouge ?»« Sans doute, je la vois. Elle est dans un beau site, à ce qu'il me semble. »« Eh bien, c'est une petite maison de campagne que mes économies de 2 ans m'ont permis d'acheter. » et où ma femme et moi nous venons passer les beaux jours. » Le marquis exprima tout le contentement qu'il éprouvait à l'annonce d'une telle nouvelle. « Ah, ce n'est pas assez que de vous réjouir, » reprit Simon Leblanc. « Autrefois, vous êtes invité de vous-même à dîner chez moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vous prie de venir vous y rafraîchir en passant. Ce sera une belle surprise pour ma femme, la digne enfant. Il ne se passe pas de jour qu'elle ne prononce votre nom. » « C'est pourtant au marquis que nous devons tout notre bonheur, Simon. » me répète-t-elle souvent, et foi d'honnête homme, elle ne dit rien de trop. » Monsieur de Cussy était tout ému. « Vous me comblez, mon ami, » repartit le marquis. « Vous êtes pour tout là-dedans, puisque vous êtes remis au travail. » « Oui, sans doute, je m'y suis remis. Mais qui m'y a fait remettre, si ce n'est vous ? Le billet de 1000 francs du prince allemand, arrivant après le faisan doré, a achevé ma conversion. » Jenny et moi, nous nous sommes dit qu'il y aurait une sorte de profanation à ne pas utiliser cet argent-là. Aussi l'ai-je placé sur le champ en me disant « Ce sera une poire pour la soif. » On a su bientôt que je travaillais. On m'a fait des commandes. Au billet de 1000 francs sont venus vite se réunir d'autres économies. Finalement, un jour, craignant que la santé de Jenny ne fût compromise par un trop long séjour au milieu de l'herbicier de Paris, j'ai acheté cette petite maison où je vous mène, monsieur le marquis, et où vous apporterez la joie avec vous. » Il n'avait plus qu'une 100aine de pas à faire pour atteindre la petite résidence. « Une maison de campagne, » disait le marquis. « J'ai fait faire aux autres ce que je n'ai pas su faire moi-même. » Du seuil de la porte, Jenny, mise avec une élégance pleine de bon goût et que le bien-être avait rendu jeune, aperçut le marquis et ne put retenir ses larmes. « Après le nom de Dieu, monsieur le marquis, » disait-elle, « le vôtre est celui que j'invoque le plus. » Simon Leblanc baisa au front sa femme en lui remettant le bouquet de jasmin de Florence. « Tout cela est bel et bien, » dit-il, « mais monsieur le marquis est fatigué. Il a fait une longue route à pied à travers la poussière et un soleil de plomb. Il a besoin de se rafraîchir. Voyons, mets la nappe, comme si nous étions rue Martel. »« Comment, mes enfants, vous voulez que je sois votre convive ?» demanda monsieur de Cussy en souriant. « Oui, monsieur le marquis, » reprit la jeune femme, « et cette fois je ne vous permettrai pas de faire la cuisine. » « Allons, je ne refuse pas. » Jenny avait d'avance tout disposé pour un de ces repas champêtres des environs de Paris, simple, élégant et confortable tout ensemble. Sur une petite table de noyer d'une propreté flamande, il y avait une nappe d'une blancheur biblique. La gastronomie, comme l'hôtel, demande du linge blanc. Le service était en porcelaine fine et en cristaux, absolument comme chez les millionnaires. On y avait placé 2 vases de fleurs fraîches près des carafes. Comme on était dans la matinée, le menu se composait de volailles froides, d'une salade de homard et des fruits de la saison. Le fromage de brie, Ce biscuit des gourmands ne manqua pas au programme. Au dessert, en jetant son sucre dans son café, le marquis de Cussy s'écria « Allons, mes enfants, continuez, travaillez et vivez honorablement, je n'ai rien de mieux à vous dire. » Il baisa Jenny au front, serra la main de Simon Leblanc, se leva et prit congé d'eux tout en chantonnant un refrain de chanson à boire du vieux Panard. « Au revoir, monsieur de Cussy » s'écria-t-il. Tous deux le suivirent longtemps des yeux. Il s'écoula encore un an. Chapitre 4e. À tort ou à raison, l'air de Saint-Germain, tamisé par les grands arbres des forêts voisines, passe pour être d'une pureté sapide. Certains physiologistes vont même jusqu'à prétendre qu'il a la propriété d'allonger la vie. Le fait est qu'on a constaté dans ce rayon des environs de Paris de nombreux cas de longévité. Un grand nombre d'habitants de la capitale, voulant s'écarter du tracas des affaires et des bruits sans nombre de l'immense fourmilière, émigrent volontiers dans cette commune où l'on est tout à la fois à la ville et à la campagne. Un homme savant sur tout ce qui se rapporte à l'art de bien vivre et de vivre le plus longtemps possible, le marquis de Cussy tenait à retremper les forces de sa vieillesse dans cette atmosphère généreuse de Saint-Germain-en-Laye. C'est pourquoi il avait décidé de passer tout l'automne dans une sorte de petit château situé sur le chemin qui mène au Pec. Du matin au soir, il se promenait, tantôt au nord, tantôt au midi. Un jour, le long de la Seine, si limpide et si bleue de ce côté, une autre fois, à travers les sentiers poétiques de cette belle forêt, qui a encore autant de charme qu'elle en possédait à l'époque où Diane de Poitiers la parcourait à cheval. Les souvenirs historiques n'étaient pas précisément ce qui venait chercher le contradicteur de Brillat-Savarin. Il y prenait le grand air, la senteur des pins, des châtaigniers et des chênes, l'arôme qui vient de la bruyère mouillée par les pleurs du matin et les bruits que font les pas du marcheur solitaire sur les feuilles jaunies. Une autre chose y souriait particulièrement à son esprit enjoué. C'étaient les parties bruyantes de jeunes gens et de jeunes filles et les cavalcades de bourgeoises endimanchées. Le Parisien qui est, disait-il, un animal essentiellement terrestre, a deux manies étranges, celle de monter sur un cheval et celle de monter sur un vaisseau. Et il riait à se tordre toutes les fois que le hasard le rendait témoin d'une de ces chutes grotesques que Paul de Kock a si bien décrites dans ses romans. Un jour de septembre, à la nuit tombante, notre promeneur vint déboucher, sans le vouloir, au milieu d'une partie d'âne. Deux roussins d'Arcadie, chargés l'un d'une jeune femme à figure rose, l'autre d'un enfant de 3 ans en costume d'Écossais, galopaient dans le sentier qu'ils suivaient. Le soleil couchant laissait voir un autre personnage à pied qui, armé d'une houssine, allait d'un bourriquet à l'autre comme pour l'aiguillonner et lui faire rater le pas. Cet autre acteur de notre drame était un homme encore jeune, grand, bien découplé, et avait sur la tête un chapeau de paille destiné à le garantir de la chaleur ou de la pluie. « Ah, monsieur le marquis, Dieu soit loué, c'est donc encore vous !» Monsieur de Cussy reconnut Simon Leblanc. Homme, femme, enfant et âne, tout s'arrêta comme par enchantement. Jenny voulait descendre pour présenter ses hommages. « Restez, restez donc !» s'écria le marquis. « Eh, vous êtes charmante ainsi, je vous jure. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros garçon-là » continua-t-il en désignant de la main le petit cavalier habillé en Écossais. « Monsieur le marquis, » répondit Simon Leblanc, c'est notre fils, pour vous servir. Vous voyez qu'il a déjà la mine d'un gaillard. Il sait votre nom, et c'est un de ceux qu'il respectera le plus, n'est-ce pas, Édouard ? Le vieillard était tout attendri. « Ah, dame, vous n'avez pas cessé de nous porter bonheur, » dit Jenny en retenant son âne, qui, sentant l'heure de l'avoine, cherchait à prendre un temps de galop. « C'est bien, mes enfants, » répondit M. de Cussy. « Allez toujours, et que le ciel vous tienne en joie. » « Eh, pardieu, j'y songe, monsieur le marquis !» dit tout à coup Simon Leblanc. « Nous ne sommes qu'à 20 minutes de ma petite maison. Un magnifique gigot y rôtit à la broche. Nous avons du vin de Bourgogne dans le cellier, le fromage que vous aimez, et du chasselas de Fontainebleau. Ce serait une belle fête pour la petite famille si vous acceptiez ce modeste dîner. » Le marquis cherchait à s'excuser. « Monsieur le marquis, vous ne pouvez pas refuser !» « Songez donc, il faut bien que nous fassions voir à notre Édouard l'homme généreux à qui il doit le bonheur de ses parents et le sien. » Le marquis ne se sentit pas la force de répondre par un refus à une invitation si touchante. Jenny était rayonnante de joie. Toute la caravane se remit en marche, la mère et l'enfant à l'avant-garde sur les ânes, et les deux hommes à pied. « N'est-ce pas votre sentiment, monsieur le marquis, que la marche est ce qu'il y a de mieux pour gagner de l'appétit ?»«
Il y a mieux, » reprit monsieur de Cussy. « Passer 40 ans, c'est la seule absinthe qu'on doive se permettre. »
Simon Leblanc n'avait rien exagéré en disant que cette soirée serait une fête pour lui et pour les siens. Quant au marquis, dans sa dernière maladie, il reçut un jour une très belle tasse de porcelaine sur laquelle était peint un faisan doré. Une seule ligne accompagnait cet en bois. « À mon médecin, pour l'aider à prendre sa tisane. » Simon Leblanc. Monsieur de Cussy comprit que cela lui venait du peintre sur porcelaine. Quand on lui demanda ce que c'était que cette tasse, « C'est le meilleur rôti et la plus belle guérison de ma vie, » disait-il. En mourant, le marquis de Cussy a légué sa tasse à un de ses neveux, qui la garde religieusement comme une relique de famille. Ainsi s'achève « Le faisan doré » de Philibert Audebrant.